Comme chaque jeudi, on passe aux clés des libertés. Des clés des libertés qui nous sont données aujourd'hui par l'avocat Bruno Bouillet. Bonjour Bruno.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la question délicate du contrôle pénal des téléphones. Le téléphone portable n'est pas seulement un objet de communication interpersonnelle. C'est aussi un outil de stockage de données qui peut intéresser les services de police et de justice dans le cadre de leurs enquêtes suite à la commission d'infractions à la loi pénale. Dans ces deux dimensions, outils de communication et outils de stockage, l'intervention policière sur l'usage ou le contenu du téléphone constitue une atteinte à la vie privée de la personne qui ne peut être justifiée que par des considérations que la loi considère comme étant supérieures, telles que la prévention des infractions ou la recherche et la poursuite de leurs auteurs. Le contrôle policier des téléphones peut ainsi être envisagé sous trois aspects. Tout d'abord, les interceptions de communication, autrement appelées écoutes téléphoniques. Dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire la recherche des auteurs d'infractions à la loi pénale, seul un juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Le juge va rechercher les correspondances utiles à la manifestation de la vérité pour les enregistrer et les transcrire afin de les verser au dossier de l'information. C'est ici l'intervention d'un juge indépendant qui est le garant du respect des libertés. À côté des écoutes judiciaires, il existe aussi des écoutes administratives, autorisées dans le cadre du renseignement, afin de mettre à disposition du gouvernement des informations relatives aux enjeux géopolitiques et stratégiques, ainsi qu'aux menaces susceptibles d'affecter la vie de la nation. Les services spécialisés peuvent recourir aux écoutes téléphoniques pour le recueil de renseignements relatifs à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la prévention du terrorisme ou encore la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée. Ces écoutes sont demandées par certains ministres, défense, intérieur, justice ou économie, et sont soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR. La garantie de nos droits est ici censée être assurée par une commission administrative indépendante. Deuxième point, les perquisitions du contenu du téléphone. En principe, le contenu de votre téléphone relève de votre vie privée et n'est pas consultable sans votre accord, même par la police, sauf dans le cadre d'une enquête nécessitant la recherche de preuves devant aboutir à la manifestation de la vérité. Le contenu d'un téléphone peut alors faire l'objet d'une perquisition dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire lorsqu'une infraction a été commise et que la preuve peut en être acquise par la saisie de données informatiques qui sont en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou au délit ou qui paraissent détenir des pièces, des informations ou des objets relatifs aux faits incriminés. Autrement dit, la police peut s'ingérer dans votre sphère purement privée via votre téléphone si vous êtes soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou si vous y avez participé ou même si vous détenez des informations susceptibles d'intéresser l'enquête. Dans ce cadre, seul un officier de police judiciaire peut alors pratiquer la saisie du téléphone et des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité. Il doit en dresser procès-verbal, inventorier et placer sous scellé le téléphone. L'ensemble de ces opérations est assimilé par la jurisprudence à une perquisition qui se déroule en milieu dématérialisé. C'est donc une perquisition numérique. Il devra ensuite procéder à son exploitation, c'est-à-dire à l'extraction des données susceptibles d'intéresser l'enquête en cours. Se pose alors la question du déverrouillage du code d'accès. C'est le troisième point. La plupart des smartphones sont équipés d'un système de verrouillage de l'accès à l'écran pour lequel un code est nécessaire. Sans ce code, la saisie du téléphone est donc inopérante, sauf intervention de techniciens très spécialisés. C'est pourquoi la loi punit le fait de refuser de livrer la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, ce sont les termes de la loi, susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Après une longue bataille judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de cassation a finalement décidé que le code de déverrouillage de l'écran d'accueil peut constituer une clé de déchiffrement si l'activation de ce code a pour effet de mettre au clair les données cryptées que l'appareil contient ou auxquelles il donne accès, c'est-à-dire dans quasiment toutes les hypothèses. Dès lors, Si le téléphone portable est susceptible d'avoir été utilisé pour la préparation ou la commission d'un crime ou d'un délit, son détenteur, qui doit au préalable avoir été informé des conséquences pénales d'un tel refus, est tenu de donner aux enquêteurs le code de déverrouillage de l'écran d'accueil. Et s'il refuse de communiquer ce code, il commet l'infraction de refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Par conséquent, si le téléphone peut être le réceptacle de notre vie privée, il n'est pas à l'abri d'être écouté, voire fouillé, dès lors que des raisons policières de maintien de l'ordre viennent justifier une telle ingérence dans nos libertés.
Merci beaucoup Bruno Bouillet, avocat, pour cette nouvelle chronique des clés des libertés.